6h45 sur France Culture. C'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au programme aujourd'hui, la charia au sultanat de Brunei.
Et voilà, les condamnations internationales se multiplient depuis l'entrée en vigueur mercredi des peines de mort pour les personnes convaincues d'homosexualité, d'adultère, mais aussi des peines de mutilation pour le vol. C'est un pas en arrière pour l'ONU, mais un renforcement de l'enseignement islamique pour Hassan al-Bolkiah, le sultan du petit royaume, riche et à la population fidèle au roi. Alors, témoignage de foi ou manœuvre politique, on voit ça avec vous, Marie-Sybille de Vienne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes professeur à l'INALCO en économie et géopolitique de l'Asie du Sud-Est, auteur de Brunei, de la thalassocratie à la rente. Alors justement, les diplomaties, je le disais, l'opinion occidentale sont braquées, hein, mais Brunei se distingue peut-être aussi de la partie islamisée de l'Asie du Sud-Est où il se trouve, puisque, si je me trompe pas, il deviendrait quand même le premier État d'Asie du Sud-Est à introduire la charia, ou plutôt le code pénal islamique au niveau national.
Les pères du sultanat de Brunei en Asie du Sud-Est, ce sont les 9 sultans de Malaisie péninsulaire, qui eux sont des monarques constitutionnels et qui ont dans une posture traditionnellement inverse de la posture du sultanat de Brunei, c'est-à-dire eux se sont opposés à plusieurs reprises en usant de leur seule posture qui leur reste, qui est celle de chef religieux, à l'instauration du code pénal islamique dans les États où la question se pose, qui sont les 2 États en Malaisie où le parti islamique a gagné les élections locales, sur la côte est, le Terengganu et le Kelantan, où l'application de ce code pénal islamique est en suspens. Au Brunei, c'est donc l'inverse qui se passe.
Le Kelantan qui se trouve sur la péninsule, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, justement, je disais charia ou code pénal. Charia, c'est le mot qu'on utilise ici et dans les dépêches, mais il s'agit de peine, surtout de peine pénale. Hein.
Le mot charia est utilisé à tort, parce que c'est plus commode dans la presse occidentale. Charia désigne l'ensemble d'un droit islamique qui, tout pour ce qui concerne le droit de la famille, par exemple le mariage ou l'héritage, est appliqué depuis des lustres dans les pays musulmans du reste du sud-est asiatique, comme dans une bonne partie du reste du monde musulman. En revanche, le hudud, c'est-à-dire les châtiments corporels, le code pénal islamique, lui, est fait l'objet de débat, puisque seule une petite partie des pays musulmans l'applique.
Mmh. Et alors, en quoi c'est une situation qui est différente par rapport à ce qui se passait en 2014? Parce que déjà, à l'époque, il y avait eu l'introduction de la charia, du code islamique au niveau national. Il n'y avait pas encore ces peines prévues concernant l'homosexualité ou concernant le vol, les peines au corps. Mais il y avait eu à peu près les mêmes réactions, le boycott de certains grands hôtels de la part d'Hollywood. Finalement, la situation en était restée jusque-là. Alors, quel est le pas qui est franchi aujourd'hui ?
Alors, en réalité, la loi date de 2013. Elle a soulevé des protestations au regard de son caractère rétrograde et inéquitable pour une partie des dispositions qu'elle comprend. Et le sultan a pris la décision de l'appliquer de manière progressive. Et vous aviez déjà eu l'année dernière la mise en place de châtiments corporels pour des dénis mineurs. Ce qui change, c'est que à partir de mercredi, c'est l'ensemble du code pénal islamique qui rentre, lui, en application.
Il y a des questions qui se posent quant à l'applicabilité de ces peines, la question des témoins, des peines qui ne pourraient être appliquées qu'en cas d'aveu formel ou de 4 témoins possibles, et puis reste à trouver des gens pour les appliquer aussi. Hein.
Bien sûr. Alors, ces peines, les peines les plus dures, c'est-à-dire celles qui sont imposées en cas d'adultère et en cas de relation homosexuelle, impose malgré tout à l'accusation de faire la charge de la preuve. Et la charge de la preuve, elle passe par le recours à des témoins de bonne foi, qui peuvent déclarer avoir vu les faits en question. Ce qui, évidemment, pour ces deux types de délits, devient extrêmement difficile, puisqu'il ne suffit pas d'un prélèvement ADN où il ne suffit probablement pas, mais pour l'instant il n'y a pas encore de jurisprudence au Brunei aussi, d'un enregistrement par des caméras de télévision. Il faut une preuve de témoin physique, puisque les outils pouvant servir de preuve ne sont pas considérés comme valables.
Ce qui veut dire que cette loi est quasiment inapplicable, c'est un peu ça ?
Alors, cette loi, elle va être très difficilement applicable, d'autant que pour l'instant, il n'y a pas de jurisprudence au Brunei. Elle est considérée comme un outil pour forcer les Brunéiens musulmans à vivre de manière la plus conforme à l'islam, et pour imposer aussi au reste de la société un type de comportement correct. Oui. Alors, en sachant que pour la question de l'homosexualité, ça dépasse le cadre des seuls musulmans, ça dépend aussi quels sont les acteurs en jeu avec un des deux acteurs qui est musulman. Donc le détail, si vous voulez, de l'application des peines n'est pour l'instant pas tellement précis, et évidemment tout le monde espère que les difficultés de l'instruction feront qu'il n'y a pas de véritable jurisprudence qui sera mise en place.
Et le fait que le Premier ministre, il y a eu un communiqué de son bureau, le sultanat en fait, ait précisé qu'il y ait deux systèmes, un civil et un applicable aux musulmans, qui continueront à s'appliquer en parallèle, est-ce que ça vaut pour ces questions-là ?
Alors, ça vaut pour ces questions-là, ça va valoir en partie pour le, par exemple, pour ce qui est des délits comme le vol. Alors, il ne faut pas oublier que le Premier ministre, c'est le sultan. Hein. Le sultan, il est Premier ministre, ministre des Finances, ministre des Relations étrangères, ministre de la Défense et chancelier de l'université. Donc, il y a toujours deux régimes au Brunei qui ne sont pas une chose nouvelle. Vous avez le régime de la common law de type britannique, et vous avez le régime du droit musulman de la charia. Le problème, c'est que depuis les années 90, et surtout depuis le début des années 2000, la compétence de la common law n'a cessé de se réduire, puisqu'on on assiste à une islamisation progressive de la société et des modes de vie. Donc l'inquiétude également des non-musulmans qui résident au Brunei, qu'ils soient citoyens brunéiens ou pas, c'est d'assister à une continue réduction de champ de la common law, et qu'à ce moment-là, elles finissent par être en quasi-totalité mises de côté.
Donc inquiétude des 10% de chrétiens et 13% de bouddhistes.
Alors le découpage ne signifie pas grand-chose. Pour la partie historiquement non musulmane de Brunei, le christianisme est quelque chose qui gagne. C'est aussi un autre problème. Il est par exemple pénalement répréhensible si vous parlez d'une religion autre que l'islam à des gens qui sont athées ou qui sont d'autres d'autres religions. Il y a une grande peur d'activité missionnaire, quelle qu'elle soit.
Et justement, alors dernière question, puisqu'il y avait déjà eu effectivement l'interdiction des fêtes de Noël catholiques en 2015, des fêtes boutiques, interdiction de l'évangélisme également. Est-ce qu'il s'agit là d'un resserrement, on pourrait dire, identitaire, ou d'une manœuvre, disons, vous disiez, imposer un type de comportement pour prévenir toute la jeunesse, en fait, du pays, jeunesse en grande partie au chômage, dans une économie en croissance très faible, en yo-yo. Est-ce qu'il y a cet aspect-là aussi ?
Alors, les jeunes ont du mal à trouver effectivement du travail. Cela dit, vous avez 55% de la population permanente du Brunei, citoyens et résidents permanents, qui sont employés par l'État. Ce qu'il y a, c'est que la situation économique qui va un peu mieux maintenant qu'il y a un an fait qu'on ne, l'État ne peut pas continuer indéfiniment à créer de l'emploi puisque vous avez déjà un fonctionnaire pour 8 personnes habitant au Brunei. Cela dit, le sultan reste globalement populaire. Les Brunéiens bénéficient d'un coton social qui est le plus protecteur de toute l'Asie orientale, de la naissance à l'armor, et même le pèlerinage est le plus souvent à la Mecque est gratuit. Donc l'opposition, tout est fait pour qu'elle n'existe pas, mais elle est en même temps inexistante, parce que quand vous avez toutes ces facilités-là, pourquoi protester ?
Oui, même s'il y avait déjà eu quelques protestations sur les réseaux sociaux en 2014, enfin, on en reparlera.
Moi qui navigue sur les réseaux sociaux, en particulier en malais, parce que c'est pas les mêmes gens qui surfent en malais et que ceux qui surfent en anglais, c'est pas forcément les mêmes origines ethniques, vous pouvez dire qu'il y a eu des protestations, oui, mais elles restent modérées.
C'est dit, en tout cas, je vous remercie pour vos explications aujourd'hui, Marie-Sybille Devienne. Désolé de vous couper, il faut rendre l'antenne. On renverra à votre livre, en tout cas, Brunei de la thalassocratie, à la rente, édition du CNRS en 2012.